En séance. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Personnages, personnalités, caractères, le meilleur et le pire, c'est le thème que proposait en 2003 l'Académie des sciences morales et politiques pour ses séances publiques du lundi après-midi. 2003 était placé sous la présidence de Monsieur Emmanuel Leroy-Ladurie. Et chaque lundi, un académicien ou une personnalité indépendante de l'Académie était invité à présenter une communication sur le thème choisi. Le lundi 16 juin 2003, la parole était à André Zisberg, professeur d'histoire à l'Université de Caen. Personnage, personnalité, caractère, André Zisberg présentait une communication intitulée « Louis XIV, XV et XVI, trois rois Bourbons et la mère ». Nous rejoignons tout de suite la salle des séances.
Alors effectivement, il va être question dans mon exposé de la mère et d'une tentative d'histoire parallèle s'agissant de trois hommes qui furent aussi des chefs d'État dans l'ordre Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Je voudrais m'exprimer à leur sujet en développant le rapport que ces hommes ont eu avec la mer, comprise comme les espaces maritimes dans toutes leurs dimensions et sous tous leurs aspects. La première question qu'on peut se poser, c'est quand et combien de fois ont-ils vu la mer? Alors nous allons procéder chronologiquement par Louis XIV. Alors Louis XIV voit la mer pour la première fois en 1647 à Dieppe. Il est au port de Dieppe en compagnie d'Anne d'Autriche et de Mazarin. Louis XIV a presque 9 ans. Et lors de cette visite à Dieppe, il monte à bord d'un vaisseau de guerre qui s'appelle le Jupiter, déjà. Et le Jupiter est commandé à ce moment-là par un très très grand marin qui a servi le roi de France, mais aussi le roi Suède, qui s'appelait Abraham Duquesne. Et il profite de sa présence à bord du Jupiter pour remettre à Abraham Duquesne ses provisions de chef d'escadre. Et puis Louis XIV voit encore la mer en 1650 à Bordeaux, au milieu des troupes de la Fronde. Il a quitté la cour avec Anne d'Autriche et là il retrouve encore Duquesne. Mais cette fois-ci, il s'agit de faire une sorte de démonstration de force dans ce qu'on appelait la mer de Gironde vis-à-vis des Bordelais. Il est en 1658 à Dunkerque, au mois de juin, après la bataille des Dunes. La ville est emportée, enlevée par Turenne, mais livrée à l'Angleterre. Peu après, la victoire emportée par les Français, selon le marché qui avait été conclu entre Mazarin et Cromwell. L'année suivante, 1659, il est à Brouage, en route vers les Pyrénées. Le port de la Saintonge, doté d'un si magnifique réseau de fortifications. Et puis, la même année, il est à Saint-Jean-de-Luz, au retour de la signature de la paix des Pyrénées, où il épouse Marie-Thérèse. L'année suivante, eh bien, il est à Marseille, et puis encore à Toulon. À Marseille, il est entré dans la ville révoltée par une brèche pratiquée dans les remparts, et à Toulon, où il se rend compte de l'importance d'un port de guerre en Méditerranée. 1661, il est à Nantes, dans l'estuaire de la Loire, où il ordonne l'arrestation de Nicolas Fouquet. 1662, le revoilà de retour à Dunkerque, où il préside à l'achat de la ville, ville achetée au roi d'Angleterre, Charles II, pour 4,5 millions de livres tournois. En 1669, il est de retour à Marseille. C'est une année importante dans l'histoire de la ville, parce que 1669, c'est l'année où Marseille reçoit un statut de port franc, et c'est également l'année où est lancée la construction d'un superbe arsenal des galères. Et enfin, dernière visite du roi Soleil dans un port de mer, 1680, il est à Dunkerque, où il monte sur un vaisseau en compagnie de Jean Bart. Louis XV. Au total, il a séjourné à 9 reprises dans un port de France. Louis XV. Louis XV n'a vu qu'une seule fois dans toute sa vie et dans tout son, au cours de son oreille la mer. Ça se passait en 1749, c'est au Havre. Il a 39 ans. Il est poussé par Rouillet, secrétaire d'État à la mer, pour aller voir un port. Et il visite le port du Havre en compagnie de Madame de Pompadour et du duc de Penthièvre, qui est l'amiral de France. Il n'a pas visité de vaisseau de guerre. Il a visité un navire marchand, uniquement, qui s'appelait le Chariot, une flûte de 600 tonneaux. Il n'a pas assisté au lancement de navires de guerre. Il a assisté au lancement de 3 vaisseaux marchands. Et ainsi, le seul port qu'a visité Louis XV était un port de commerce. Les seuls vaisseaux qu'il a vus dans le port du Havre étaient des vaisseaux de guerre. Et donc, sa seule connaissance de la marine se limite, sa connaissance visuelle, à celle de navires marchands. Louis XVI, lui aussi un seul voyage, mais quel voyage ? Du 21 au 29 juin 1786, Louis XVI se rend à Cherbourg. À Cherbourg, où il va présider au lancement de ce qu'on appelait un cône. Les Français ont inventé, bien avant les Américains, les premiers, ce qu'on appellerait un port artificiel. Il s'agissait de construire de toutes pièces une rade avec une immense digue de part et d'autre de l'île Pelée. Et pour construire cette digue, qui devait être l'élément clé de la naissance du port militaire de Cherbourg, un ingénieur des ponts et chaussées qui s'appelait Pierre-Alexandre de Cessard avait inventé la construction d'énormes cônes qui faisaient 20 mètres de hauteur et 50 mètres à la base, hein, des cônes trapézoïdaux. Et ces cônes immergés, c'était des charpentes de bois remplies de pierres perdues, devaient former en quelque sorte les éléments comme des grains d'un immense chapelet qui devait ceinturer toute la rade de Cherbourg. Arrivé à Cherbourg, Louis XVI distribue des récompenses et des promotions aux plus valeureux des officiers de la guerre d'Amérique. On est au lendemain des victoires françaises de la guerre d'Amérique. Il monte à bord d'un vaisseau de guerre, un 74 canons qui s'appelle, tenez-vous bien, le Patriote. Ça ne s'invente pas, hein. Il mange à bord de ce vaisseau. Et là, lors du repas qu'il prend avec les officiers, il y a un plat qui semble dédaigné par l'ensemble des convives et qui reste à l'écart. Et Louis XVI demande ce que c'est. On lui dit, oh, c'est un pâté de poisson salé. Et Louis XVI se fait servir ce pâté. En fait, c'est probablement de la morue, un pâté fait avec de la morue. Et il dit au sujet de ce pâté, je le préfère à tous ceux de Versailles. Alors, il revient à Versailles en visitant par Honfleur et par Le Havre. Voilà donc résumé en quelque sorte ce coup d'œil visuel. Eh bien, il ne faut pas être grand clair pour s'apercevoir que le roi qui a le mieux connu la mer, qui l'a connu visuellement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est Louis XIV. La politique navale et maritime, le rapport avec les rois, je commence mon parallèle par Louis XIV. Ce qui fait que Louis XIV s'est intéressé à la mer, c'est d'abord par le choix d'un ministre. Et ce ministre, c'est Colbert. Colbert a pas été seulement, vous le savez tous, ministre des Finances, ministre de la Maison du Roi. Il a été à la tête d'un véritable ministère de la mer, puisque lorsqu'en 1669, Colbert devient secrétaire d'État de la Marine, eh bien ce ministère de la mer comprenait la marine militaire, la marine de commerce et de pêche, les colonies, les amirautés, autrement dit toute l'administration judiciaire du rivage. Colbert n'invente pas. Il s'inspire d'abord du programme de Richelieu. Le roi doit être aussi puissant sur mer que sur terre. L'idée d'une flotte permanente qui vient de Richelieu. Il s'inspire aussi des dossiers de Fouquet, en particulier en matière de développement et de soutien de la marine de commerce. Mais surtout, Colbert, avec la confiance et l'appui constant de Louis XIV, réalise. Il y a une œuvre immense qui est accomplie pour la marine durant le règne de Louis XIV. D'abord, ce qu'on appelle la royalisation de la marine. Par l'édit de 1669, désormais, le roi est le seul maître de la nomination des officiers civils et militaires. Par le développement des infrastructures, la naissance d'un port de guerre à Rochefort, le développement des ports et arsenaux de Brest, de Toulon, la construction de l'arsenal des galères à Marseille. L'essor aussi de la flotte sur le plan de la technologie. On emprunte d'abord à des ingénieurs et à des constructeurs hollandais, suédois, anglais. Et puis, la France se dote de ses propres charpentiers, de ses propres ingénieurs pour mettre en œuvre des vaisseaux de guerre qui représentaient l'équivalent de ce que je crois aujourd'hui, un vaisseau de guerre au temps de Louis XIV, par son coût et par, je dirais, les technologies de pointe auxquelles il fait appel à cette époque-là, c'est l'équivalent aujourd'hui d'un SNLE, c'est-à-dire d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Et puis, il faut des marins pour cette flotte, et c'est Colbert, avec l'appui de Louis XIV, qui crée ce qu'on appelle le système des classes, c'est-à-dire un véritable service militaire qui était imposé à l'ensemble des gens de mer du royaume. Bien. Colbert passe, mais dès les années 1670, il associe au gouvernement et à l'administration de la marine son fils Seignelay, qui meurt en 1690. Et après Seignelay, me direz-vous, il y a eu les Philippeaux, autrement dit les Pontchartrain, qui administrent la marine depuis les années 1690 jusqu'à la fin du règne de Louis XIV. On a dit beaucoup de mal des Pontchartrain, et c'était pourtant des gens remarquables qui ont continué l'œuvre avec la confiance de Louis XIV. Mais ils se différencient des Colbert dans deux domaines. En particulier le domaine de la guerre, les Pontchartrain prônent le développement de la guerre de course, parce que la guerre d'escadre coûte trop cher. Et puis surtout, les Pontchartrain se détachent de Colbert par leur conception du commerce maritime. Colbert est, disons, un étatiste. Il veut le contrôle de l'économie par l'État. Autrement dit, toutes les grandes compagnies de commerce lancées par Colbert ont été des échecs. Et au contraire, Pontchartrain joue la carte des négociants des ports qui ne veulent pas se sentir bridés par la monarchie, qui veulent développer librement leurs affaires. Et surtout, à l'époque de la fin du règne de Louis XIV, les Français amorcent leur pénétration dans le commerce américain à partir du moment où un Bourbon règne à Madrid. Cette marine de Louis XIV a tenu bon à l'épreuve du feu. Les marins de Louis XIV sont des grands bonshommes, le chevalier Paul, Duquesne, Tourville, mais aussi des personnages moins connus, comme Jean Gabaret, comme François Panetier. Car ce qui caractérise le corps des officiers de marine pendant la période de Louis XIV, c'est un amalgame entre des aristocrates, des gens issus de la noblesse de cour, mais aussi de la noblesse rurale, et des roturiers pur sucre. Il y avait une bonne part de roturiers parmi les officiers de la marine de Louis XIV. Et puis, ce qu'on appelle des corsaires, comme Jean Bart, comme Forbin, comme Ducasse, comme Duguay-Trouin, ne sont rien d'autre que des officiers de la marine royale. L'épreuve du feu pendant la guerre de Hollande, je rappellerai ces heures de gloire de la marine de Louis XIV que sont la bataille d'Augusta en 1676, lorsque la flotte française au large de la Sicile bat la flotte espagnole et la flotte hollandaise, victoire française qui se solde par la mort de Ruyter. Les batailles de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, la victoire de Béveziers sur la flotte anglo-hollandaise, la façon dont Tourville se bat à 1-2 lors de la bataille de la Hougue en 1692 et le coup de filet de Lagos en 1693. Et puis, pendant la guerre de succession d'Espagne, une bataille comme celle de Vélez-Malaga, au large de Malaga, où la flotte française tient tête à la flotte anglo-hollandaise. Donc, une histoire très riche, avec aussi l'implication d'un homme, d'un souverain. Le règne de Louis XV. Eh bien, il est faux de dire que Louis XV se désintéressait de la marine et des espaces maritimes. Louis XV s'est intéressé à la mer d'abord du point de vue des sciences, de la géographie. Mais il s'y est aussi intéressé dans le rapport de l'art. C'est Louis XV qui, en 1753, commande au peintre Vernet l'admirable série des tableaux des ports de France. Il s'agit ici pas seulement de peinture, parce que dans la commande, dont on a conservé la trace, eh bien, Louis XV demandait que Vernet reproduise les modèles de bâtiments de commerce en usage à l'époque, qu'il montre à travers ses toiles les activités économiques des différents ports de France. Seulement, dans ce domaine, comme dans d'autres domaines, le roi Louis XV a manqué de volonté, à vrai dire, sans méconnaître pourtant les enjeux stratégiques et coloniaux. Son règne est illustré par des événements et des faits importants en matière de marine. Il a été bien entouré et presque aussi bien servi que Louis XIV. Par exemple, le comte de Maurepas, qui est le dernier des Pontchartrain à régner sur la marine, en dit de 1723 à 1749. Eh bien, c'est pendant le règne de Louis XV que la France se dote enfin d'un appareil cartographique qui fait concurrence avec les cartes anglaises et hollandaises. C'est pendant le règne de Louis XV que naît la première école d'ingénieurs constructeurs de la marine. C'est également pendant le règne de Louis XV, surtout, que se développe le commerce. Car la France a profité, et au premier chef son commerce maritime, de cette longue période de paix qui s'ouvre après la mort de Louis XIV et qui va jusque les années 1740, paix qui est doublée d'une véritable politique d'entente cordiale. Le mot a même été prononcé. C'est la période où renaît plutôt et se développe la Compagnie française des Indes. Hein, une drôle de dame qui a vécu plusieurs vies, qui renaît au moment de la Régence avec un curieux personnage qui était Las. C'est lui qui remet sur pied la Compagnie des Indes. Et tout le règne de Louis XV est caractérisé par une extraordinaire efflorescence de la marine de commerce. Un règne aussi caractérisé par des épreuves que le roi a mal vécues et peut-être qu'il a mal compris. Les épreuves qui sont liées aux guerres qui sont déclenchées après ce que j'appelle les années Fleury, IES, celle aussi du cardinal de Fleury, guerre de succession d'Autriche et surtout guerre de 7 ans. Des années d'épreuves parce que la France doit se battre, elle, sur 2 fronts. Elle doit se battre à chaque fois sur un front maritime face à l'Angleterre, alliée à la Hollande, les deux puissances maritimes, et elle doit se battre aussi sur le front continental. D'abord face à l'Autriche, pendant la guerre de succession d'Autriche, puis contre la Prusse. Et de fait, elle est obligée d'avoir deux stratégies. Une stratégie maritime, une stratégie continentale. Elle est obligée de partager son budget militaire en deux, entre la marine et l'armée de terre. Cette période se caractérise par des défaites extrêmement douloureuses qui sont essentiellement dues à la supériorité matérielle et intellectuelle de la Royal Navy. Après une bataille comme la bataille des Cardinaux, une défaite terrible qui est subie dans la baie de Quiberon en 1759, le roi Louis XV constate fataliste, il a dit « Messieurs, il n'y aura jamais en France d'autre marine que celle du peintre Vernet. » Cependant, à partir de la fin de la guerre de 7 ans, après la guerre de la fin de 7 ans, il se produit en France ce qu'on appelle un véritable sursaut patriotique. Hein ? Et dans la marine, ce sursaut patriotique est dirigé par les deux Choiseul. On a dit à tort beaucoup de mal des Choiseul. Ce sont de grands bons hommes en matière de marine. Je parle des Choiseul, car il s'agit à la fois d'Étienne François, le duc de Choiseul, proprement dit, mais aussi de son cousin, César Gabriel, duc de Pralin. Et on ne peut pas dissocier ce qui a été fait par ces deux hommes qui forment une sorte de couple qui dirige la marine durant les années 1760-1770. Les Choiseul accomplissent, avec l'appui de Louis XV jusqu'à ce que le roi les lâche, des réformes d'organisation, mais aussi la relance du programme de construction navale. C'est pendant l'époque des Choiseul que la marine met au point un vaisseau qui va être le fer de lance des guerres de la guerre d'Amérique et ensuite des guerres de la Révolution. C'est le vaisseau de 74 canons. Et puis, d'autres exemples, on pourrait en prendre beaucoup. L'un des problèmes clés posés par la guerre maritime pendant la guerre de 7 ans, c'était les problèmes de santé navale. Les marins ne meurent pas pendant les batailles navales, ils meurent pendant les épidémies. La grande cause de mortalité dans la marine, c'est pas les boulets, c'est le typhus, c'est la mauvaise hygiène, c'est toute une flopée de cochonneries, d'épidémies qui sont liées soit au climat, soit à l'état de, je dirais, de malpropreté inimaginable qui régnait à bord des navires. Eh bien, c'est pendant le règne de Louis XV qu'on prend conscience de ces problèmes et qu'est créé, à l'époque des Choiseul, en 1768, les premières écoles de médecine navale à Brest, à Toulon et à Rochefort. Et puis, la marine de Louis XV, ce sont aussi les sciences. Le voyage de Bougainville autour du monde entre 1766 et 1768, qui est la première grande entreprise française de découverte du Pacifique, réplique au voyage de Byron, de Wallis et de Carteret. Après la guerre de 7 ans aussi, un développement sans précédent du commerce maritime français. Commerce maritime vers les Amériques et les Antilles, le trafic triangulaire, la traite, mais aussi commerce vers la Méditerranée et tous les espaces maritimes. Marseille, qui était un port méditerranéen encore jusqu'au début du règne de Louis XV, devient un port mondial. Les navires marseillais vont commercer jusqu'en Chine. Et puis un développement sans précédent du commerce vers l'Extrême-Orient après la suppression du privilège de la Compagnie des Indes en 1769. Enfin, le règne de Louis XVI, j'avoue, c'est mon préféré. Pourquoi ? Parce que Louis XVI était passionné depuis son adolescence par les espaces maritimes et la marine. Lorsque Louis XV s'occupe de l'éducation de son petit-fils, et il s'occupait de très près de l'éducation de son petit-fils, il lui a donné parmi les précepteurs un personnage qui s'appelait Nicolas Ozanne. Eh bien, Ozanne, c'est l'un des grands peintres de marine de l'époque de Louis XV, un merveilleux dessinateur qui connaissait tout le monde dans la marine et qui a captivé son élève. Louis XVI est passionné aussi par la géographie et lorsqu'il devient roi, on peut dire que c'est le premier roi de France qui connaît véritablement sa géographie et qui a la compréhension des enjeux et du rôle que les espaces maritimes jouent au siècle des Lumières. C'est dès le début de son règne l'essor des constructions navales en vue de la préparation, il faut bien le dire, d'une guerre de revanche contre l'Angleterre. Sartine et son premier ministre de la marine après Turgot, qui n'a joué qu'un rôle éphémère en matière de marine. C'est surtout la construction du navire de 74 canons à grande échelle. Rendez-vous compte qu'entre 1774 et 1778, des chiffres qu'on ne verrait plus, les crédits pour la construction navale en 4 ans ont été augmentés par 4. Et puis Louis XVI a la main heureuse pour choisir ses ministres de la marine et ses collaborateurs. Par exemple, un personnage qui s'appelait Charles de Fleurieu et qui a été nommé en 1776 à la tête de la direction des ports et arsenaux. Le type même de l'officier guerrier et savant. Et puis des personnages extraordinaires d'officiers de marine qui sont des têtes intellectuelles, des pointures comme le chevalier de Borda, comme Sané. Il a la main heureuse pour choisir le maréchal de Castres, un terrien, un militaire de l'armée de terre pour ministre de la marine, qui administre la marine de 80 à 87, et puis le comte de la Luzerne. Il est difficile, et c'est une question qu'on peut se poser, de faire la part personnelle de l'action de Louis XVI dans la direction de la marine. Un exemple, c'est pendant le règne de Louis XVI que la France accomplit la royalisation, autrement dit la nationalisation, des grandes entreprises métallurgiques. L'État prend le contrôle des plus grandes fabriques de canons à Indrée, à Ruel et à Guérigny, on forgeait aussi des encres. Il n'est pas sûr que le roi se soit impliqué dans la nationalisation des industries métallurgiques. Par contre, le roi s'est impliqué, on le sait, dans la naissance du port de Cherbourg, que Calonne appelait, mon cher maître, une splendeur utile. Bah. Louis XVI est aussi l'un des principaux inspirateurs de l'ordonnance de 1784 sur l'organisation de la marine et du service militaire des gens de mer. Eh bien, je peux vous dire que c'est Louis XVI, mesdames et messieurs, qui a inventé la retraite à 60 ans. En effet, c'est pas forcément sa meilleure invention, vous me direz. Mais, j'ai fait exprès, je suis un peu provocateur. Mais, si, parce que, à partir du règne de Louis XVI, la pension de retraite pour les gens de mer qui servaient le roi, qui donnaient leur vie pour le roi, n'est plus une grâce, comme on disait au temps de Louis XIV, mais elle devient un droit. Donc, après des durées qui sont modulées selon le temps de service qu'ils ont fait dans la marine marchande ou dans la marine militaire, il y avait un calcul de la pension, et toute une administration qui s'occupait de ce calcul des pensions, les gens de mer, avaient droit à une retraite à partir de l'âge de 60 ans et avant s'ils avaient été estropiés au service du roi sur un bâtiment de guerre. Et puis, le voyage de la Pérouse également, dont les instructions sont minutieusement, les historiens l'ont montré, organisé et rédigé par Louis XVI lui-même, réplique au voyage de Cook. Vous le savez, la boussole et l'astrolabe appareillèrent le 1er août 1785 et cette expédition se perdit sur les récifs de Vanikoro dans les Nouvelles-Hébrides, sans doute au cours de l'année 1788. Et l'on raconte que Louis XVI, au pied de l'échafaud, demandait encore « A-t-on des nouvelles de monsieur de la Pérouse ?» Enfin, la guerre d'Amérique. Louis XVI ne voulait pas cette guerre. Il ne la voulait pas. Il y est entré à reculons, poussé par Vergennes, qui lui disait qu'une opportunité pareille ne se représenterait pas pour la France. L'Angleterre isolée diplomatiquement, en butte à l'hostilité de la plupart des puissances maritimes, la Russie, le Danemark, la Suède, la Prusse, le Portugal, la Sicile et enfin la Hollande, les Pays-Bas, qui étaient toujours des partenaires de l'Angleterre et qui cette fois-ci la lâchent froidement pour faire du commerce avec les États-Unis d'Amérique. Une marine rénovée et puis une nouvelle génération d'officiers qui tranchent avec les officiers de marine de la guerre de 7 ans. Je vous donne des noms. Suffren, bon, tout le monde connaît, mais Guichen, Lamotte-Piquet, De Grasse, d'Hector, d'Albert Dorion, des gens absolument exceptionnels qui vont donner un état d'esprit offensif à la marine qu'elle n'avait pas connu depuis l'époque de Tourville et de Jean Bart. 1780, la victoire de la Chesapeake, c'est une victoire de Louis XVI incontestablement, et la victoire de Yorktown qui sonne l'heure de la défaite. Il n'y a pas eu de victoire française pendant la guerre d'Amérique, hein. Par exemple, en 1778, le combat d'Ouessant qui faillit tourner la catastrophe pour les Français et surtout une très grosse défaite. En 1782, la bataille des Saintes subie par De Grasse au large des Petites Antilles. Et puis cette guerre d'Amérique qui n'avait pas été voulue par Louis XVI. Et souvenez-vous des paroles de Turgot qui lui disait que le premier coup de canon mettrait la tête du roi sur le billot. guerre très coûteuse. C'est la guerre la plus coûteuse de toute l'histoire de l'Ancien Régime. Ah, la plus coûteuse de très très loin. Et le gain de cette guerre est nul. Les Français n'ont rien gagné. Tout ce qu'ils ont gagné, c'est grâce au sacrifice des Français que sont nés les États-Unis d'Amérique. Il y a eu un gain tout de même, c'est la reconquête du Sénégal. Figurez-vous que les Anglais avaient réussi la conquête du Sénégal pendant la guerre de 7 ans, notamment la conquête de Saint-Louis. Gorée a juste été restée à la France. Eh bien, une expédition menée par un personnage assez inénarrable, le duc de Lauzun, réussit la conquête du Sénégal. Et si cette conquête n'avait pas été réussie, peut-être que le président Senghor, qui nous a quittés depuis peu, aurait été un grammairien anglais. Bien. Conclusion générale de ce parallèle, je dirais que sans doute Louis XIV a été ce qui peut surprendre, et pas seulement par rapport à Louis XV et Louis XVI, le plus maritime de nos rois, le souverain qui a montré le plus de volonté d'application concernant l'action en matière de politique navale. Mais cette politique, il la conçoit avec le poids de l'État, avec le poids surtout de la marine de guerre, des canons, de l'intervention royale. Louis XV, au contraire, perçoit la mer comme un espace de commerce, de dialogue, d'échange, de développement scientifique, de découverte, et sans qu'il y ait été vraiment pour grand-chose. C'est sous son règne que la flotte française de commerce et de pêche dépasse la flotte hollandaise et talonne la flotte anglaise par son tonnage et son activité dans toutes les parties du monde. Enfin, Louis XVI, une passion véritable pour la mer, peut-être même celle d'un amoureux de la mer, et sans doute, durant son règne, le chapitre le plus brillant de notre histoire maritime. Alors j'en conclus que nos 3 derniers rois Bourbons ont aimé la mer. Merci.
C'était André Zisberg, professeur d'histoire à l'Université de Caen, en séance de l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 16 juin 2003 au Palais de l'Institut de France. André Zisberg présentait sa communication intitulée « Louis XIV, XV, XVI, trois rois Bourbons et la mer ». Communication présentée dans le cadre de l'année 2003 de l'Académie, présidée alors par M. Emmanuel Leroy-Ladurie. Je vous rappelle que les séances de l'Académie des sciences morales et politiques se tiennent tous les lundis à 15h. Vous pouvez les écouter en différé depuis le monde entier sur Canal Académie ou les découvrir sur le site internet de l'Académie, adresse électronique www.asmp.fr.